The Assembly will hear an address by Her Excellency.
L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Cristina Fernández, présidente de la République argentine. Je demande au protocole d'escorter Son Excellence.
On behalf of the General
Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations Unies Son Excellence Cristina Fernández, présidente de la République argentine, et je l'invite à intervenir devant l'Assemblée.
Muy buenas noches a todos y a todas.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'aimerais plus particulièrement adresser toutes mes félicitations à Antigua et Barbude, membres du GROULAC et de la CELAC. C'est effectivement un honneur pour nous de vous voir présider cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout d'abord, nous aimerions exprimer toute notre solidarité aux victimes des attaques qui ont eu lieu au Kenya et au Pakistan. Nous aimerions exprimer notre solidarité aux victimes de toutes les attaques terroristes qui surviennent aujourd'hui dans différentes régions du monde. Nous ne le disons pas par simple compassion formelle ou par des raisons de protocole. Notre pays, l'Argentine, ainsi que les États-Unis d'Amérique sont les deux seuls pays du continent américain à avoir subi des actes de terrorisme.
Dans notre cas, en 1992, à Buenos Aires, l'attaque de l'ambassade d'Israël et une deuxième fois, un peu plus tard, l'attaque de la synagogue israélienne. Il est clair que nous sommes des victimes. Ce ne sont pas des combattants, ce ne sont pas des soldats. Ce sont des personnes qui se trouvent dans un bus, dans un bar, se rendent au travail et sont attaqués. Ils ne sont pas combattants, ils ne sont pas soldats. Donc, fondamentalement, il s'agit de victimes ainsi que leurs familles et nous devons exprimer notre solidarité et notre ferme condamnation du terrorisme de quelque nature qu'il soit. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner que cette 68e assemblée est marquée par la Syrie. Récemment, j'étais présidente du Conseil de sécurité. L'Argentine est membre non permanent pour, en 2013 et 2014. Et le 6 août, donc il y a à peine 6 semaines, nous avons proposé une réforme du Conseil de sécurité car nous soutenons que son fonctionnement remonte à la guerre froide où la peur d'une guerre nucléaire avait marqué l'humanité. Et nous étions dans un monde bipolaire de l'axe de la guerre et ceci cette institution a été créée avec un droit de veto pour que personne ne puisse appuyer sur un bouton et faire exploser Buenos Aires. Cet instrument a fonctionné de 1945 jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, il s'est avéré complètement obsolète, fonctionnant mal, non seulement en ce qui concerne le dossier de la Syrie, mais en ce qui concerne le maintien de la paix et en ce qui concerne l'insécurité dans le monde. J'ai entendu que cette session est différente dans ce sens que avant chacun venait avec son propre format de monologue qui rendait impossible tout dialogue, tout discours entre les différentes puissances ici présentes. J'ai donc écouté attentivement, pour ainsi dire, tous les discours prononcés aujourd'hui. De toute évidence, j'ai prêté davantage attention aux problèmes mondiaux, car je suis ferme défenseur du multilatéralisme, donc j'ai bien écouté le discours prononcé par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon. Et dans de nombreux discours que j'ai écoutés, j'ai entendu dire que le 21 août et le 6 août, nous avons parlé de la nécessité de réforme du Conseil de sécurité. J'ai entendu dire que l'on élimine le veto, que l'on travaille comme au CELAC, au Mercosur, où les décisions sont prises par consensus. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de règlement de conflit, s'il y a une des parties au conflit ou qui a des intérêts, si une de ces parties a le droit de veto, alors ce droit de veto devient un obstacle au règlement du différend. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans 15 ou 16 jours. Et d'aucuns ont dit que le 21 août, la crise syrienne a éclaté. En réalité, il est assez incompréhensible que l'on ne se rende compte du fait qu'en Syrie, ce n'est pas seulement le 21 août qu'il y avait une crise avec l'usage des armes chimiques. La Syrie connaît des affrontements depuis 2 ans et demi. Plus de 150 000 personnes ont perdu la vie et 29% de 94% de ces personnes sont décédées à la suite de l'utilisation d'armes classiques. Et en ce qui concerne la Syrie, on peut se demander quelle est la différence entre la mort par une mine causée par une mine antipersonnelle, par une arme chimique ou par un tir de roquette. Nous parlons des armes chimiques comme si c'était pour la première fois que l'on était confronté à ces armes chimiques comme armes de destruction massive. Un chef d'État est intervenu aujourd'hui et a parlé des chambres à gaz des nazis qui étaient terribles, a parlé des tranchées où des armes chimiques ont été utilisées là et ailleurs. Et on m'a dit, car je n'étais pas encore née, mais on m'a parlé du désastre nucléaire à Hiroshima et Nagasaki qui ont marqué des millions de Japonais. Le président de l'Uruguay a dit qu'il était jeune un jour, et moi aussi, mais j'avais moins de 20 ans. Et vous aussi, vous êtes nombreux à vous en rappeler. Je me souviens de l'utilisation du phosphore, du napalm au Vietnam. Des photos ont été marquées par le prix Pulitzer. On voit des enfants dans ces photos qui couraient le long d'un chemin à la suite d'une attaque au napalm. Et je me souviens également, pour être juste, de la douleur de la société d'Amérique du Nord lorsque les avions ont couvert de nuages noirs le corps des ou les cercueils des soldats américains d'un drap noir. Ils sont nombreux à être morts sans savoir pourquoi, à des milliers de kilomètres de leur pays. Quel manque de raison, quelle injustice, car il n'y a pas de guerre juste, seule la paix est juste. Et ce 6 août, lorsque nous avons parlé de la notion de la paix et de la sécurité, j'ai dit que la paix et la sécurité ne sont pas des notions militaires, mais politiques. Et c'est avec grande satisfaction que j'ai écouté le secrétaire général des Nations Unies qui a mentionné cette notion que nous avions évoquée au Conseil de sécurité, à savoir que la paix et la sécurité ne sont pas des notions militaires, mais politiques. Pour cette raison, nous saluons le fait que nous sommes près d'un accord en Syrie. Nous nous sommes opposés à l'intervention directe, au bombardement. Et c'est simple, l'argument pour éviter des morts, il faut faire plus de morts. Cela n'est pas un argument substantiel, valable. Mais nous ne parlons pas de n'importe qui. Nous parlons d'un pays très respectueux des normes écrites du droit international. Mon pays est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Je voudrais dire que l'Argentine est un pays qui a un développement nucléaire important en Amérique latine à des fins uniquement pacifiques et scientifiques. Nous avons des réacteurs nucléaires. Il y en a en Égypte, en Algérie, en Australie. Et nous avons l'énergie nucléaire qui est utilisée à des fins médicales. Donc, nous ne voulons pas condamner l'utilisation de l'énergie nucléaire, mais nous la condamnons à des fins militaires. Et on les passe parfois ailleurs, on les fait passer ailleurs, comme c'est le cas dans notre pays, et notamment les Malvines, où le Royaume-Uni a stationné des armes nucléaires. Nous ne sommes pas seulement signataires des accords, mais nous sommes également membres fondateurs de la Cour pénale de Rome, mentionnée également par Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Lorsque nous parlons de la condamnation des dictateurs, nous parlons de ce tribunal dont nous faisons partie, tout comme de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, sise à Washington. Et ce qui est curieux, c'est que ceux qui parlent du droit international, des droits de l'homme, de la Cour pénale, souvent n'ont pas signé ces traités. Et s'agissant des droits de l'homme, je voudrais dire que l'Argentine est membre fondateur qui a donné une propulsion d'abord au secrétariat chargé des droits de l'homme au sein de l'ONU et également des expulsions forcées. Et je suis accompagnée d'un de mes collègues qui m'a accompagnée à Paris pour signer ce traité. Et nous faisons partie des fondateurs. Nous parlons des droits de l'homme et je ne veux pas me tromper, mais aujourd'hui, on a dit, si c'est là le monde dans lequel on veut vivre, et il s'agissait des pays qui connaissent réellement une diversité culturelle et qui ont des valeurs absolues qui, par d'autres, sont considérées comme relatives, qui parlent de tolérance. Et le mot tolérance me plaît. Le mot accepter me plaît. Il faut accepter autrui, accepter que d'autres sont différents et que d'autres acceptent que je le suis moi aussi. Donc si c'est dans ce monde que les gens veulent vivre, ils doivent le dire et compter avec la logique froide des fosses communes. L'Argentine, elle aussi, a le droit de parler de ces fosses communes. En plein 21e siècle, nous continuons de découvrir des restes de carnage, de détenus, de disparus durant la dictature génocide du 24 mars 1976, tout comme le 11 novembre mentionné par le Chili, lors de l'assassinat d'Allende. De nombreux discours ont été prononcés condamnant les dictateurs. Combien on aurait aimé que l'on vienne aider les Argentins et d'autres qui, au milieu de la guerre froide, étaient les victimes de dictateurs assassins. Mais ici, il est dit que si nous respectons les droits de l'homme, on pourrait se comporter différemment en fonction des différentes puissances. Il faut mettre fin à ces deux poids, deux mesures. Les résolutions, les décisions d'un organisme multilatéral comme l'ONU doivent agir rigoureusement pour les grands, pour les petits, pour tout le monde depuis 1965, lorsque, en plénière, l'Assemblée a adopté des résolutions nombreuses obligeant le Royaume-Uni et l'Argentine à s'asseoir à la table, à négocier, à parler, paroles qui sont répétées dans tous les discours. On parle de la nécessité du dialogue à cause de la controverse relative à la souveraineté des Malvines. Il y a un refus absolu du Royaume-Uni. Et ainsi, nous constatons ces deux poids, deux mesures que l'on n'aime pas toujours qu'on les mentionne. C'est comme les sorcières. Et il ne faut pas que je parle uniquement des deux poids et deux mesures que je reconnais, mais il faut également considérer qu'il faut une base essentielle pour couper ce nœud gordien au Moyen-Orient. Il faut pour cela reconnaître le droit des Palestiniens et le droit d'Israël de vivre en sécurité à l'intérieur de ses frontières. On a à juste titre dit qu'il est impossible d'aboutir à la sécurité d'Israël sans reconnaître en même temps l'existence physique de l'État palestinien. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette caractérisation. Également, j'ai écouté le président de la République islamique d'Iran, le nouveau président, et j'ai écouté les commentaires des grandes puissances. À la suite de ce changement de gouvernement, il m'a semblé entendre, si j'ai bien écouté, qu'il y a une sorte de nouvelle attente de changement parmi les autorités en Iran avec lesquelles nous avions indifférents. La justice argentine a accusé 5 citoyens iraniens d'avoir participé à l'attentat qui et Nestor Kirchner, il y a 10 ans, en 2003, a réclamé la coopération avec l'Iran pour éclaircir les faits. Bon an, mal an, jusqu'en 2007, il a réclamé cela et j'ai pris la relève depuis jusqu'à ce jour. Cette année, nous avons reçu une réponse du ministre des Affaires étrangères d'Iran pour entamer la conversation et arriver à un accord de coopération. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, car cette affaire dure depuis 19 ans et il n'y a aucune mobilisation et il y a ces 5 accusés iraniens qui sont les seuls à pouvoir et à devoir parler. Et pour faire cela, il est évident que nous devons parler avec l'Iran. Dans ce monde assez particulier, dans mon pays également, il faut régler cela. J'ai entendu parler aujourd'hui d'élections imparfaites. C'est ce qu'a dit un président. Il a parlé d'élections imparfaites. Lorsque l'Argentine, pendant 10 ans, a demandé une coopération, et si soudain quelqu'un vous dit « Bien, très bien, nous allons coopérer, nous sommes prêts à parler », alors il n'y a pas d'autre élection possible, pas d'autre choix possible que de s'asseoir. Cela n'a pas de sens de nous attaquer politiquement. Nous ne pouvons pas nous opposer. On parle d'un accord avec l'Iran, mais un accord sur quoi? Sur le nucléaire? Pour discuter de l'islam? Non plus. Simplement un accord de considérer la question de procédure et faire en sorte que les accusés puissent parler avec toutes les garanties de la procédure, justice juste, avec, comme je l'ai dit, les garanties de la procédure. Eh bien, il y a 9 mois, tous les organes compétents ont donné leur accord, le Parlement et d'autres. Il s'agit en fait presque d'une période de gestation d'un enfant. Donc, il serait et si pendant tout ce temps, en fait, nous n'avons rien entendu de l'Iran, alors que nous avons dit que nous avons un instrument en place pour discuter de la question, mais peu importe, ce qui se passe, c'est qu'il y a un gouvernement nouveau et là encore, j'ai écouté attentivement le discours et j'ai lu des déclarations du président actuel de la République islamique d'Iran qui a dit qu'en aucune manière, on nie l'Holocauste. C'est quelque chose de très important pour moi, mais pour de nombreux citoyens du monde entier également. Et dans son discours d'aujourd'hui, il a dit que précisément la société iranienne a changé de cap. Et nous savons quelles ont été les prises de position qui sont remplacées maintenant par des prises de position modifiées. Il y a une volonté de parler, de discuter, d'avoir d'une société ouverte et prise de paix. Et le président de la France a parlé du dossier nucléaire comme étant la question la plus importante. Mais je voudrais dire qu'il doit y avoir des preuves dans le cadre d'une négociation, des preuves qu'on ne souhaite pas avoir d'armes nucléaires. Que l'on dise que l'on est attaché à la non-prolifération. J'aimerais que l'on nous dise si l'accord de non-prolifération sera accepté quand il y aura une date pour que le juge argentin puisse aller à Téhéran. Et nous n'avons pas peur. Non, nous n'avons pas peur car nous avons confiance à la bonne volonté des gens. Et pourquoi nous n'avons aucune raison de croire que l'on ne veut pas la paix. Je suis sûre que tous veulent la paix. Nous la voulons pour tous. Mais nous attendons de tous des actions qui soit en conformité entre les paroles, avec les paroles et les actes. Je n'ai aucun doute que sur la base des paroles ici prononcées, nous obtiendrons des résultats positifs. Il ne faut pas que l'on confonde notre conviction profonde avec les normes du droit international. Et que l'on ne prenne pas notre patience comme étant de la faiblesse. Nous attendons des réponses. Les victimes le méritent, tout comme la République islamique d'Iran, si elle veut prouver au monde qu'elle a un gouvernement différent, avec des actions différentes. Et j'ai confiance, je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Il y a une autre question que j'aimerais soulever. Et je dirais que Nous respectons sérieusement le droit international. Nous sommes également victimes en Syrie d'autres normes non écrites, mais qui sont très importantes dans le domaine de l'économie et des finances. Non écrites en ce qui concerne les financiers et les risques, les spéculations, les fonds, spéculatifs. Et dont en 2001, l'Argentine a été victime. En parlant de pauvreté, on a parlé de la nécessité de l'éducation pour les enfants. Et je voudrais lire deux paragraphes du discours du secrétaire général des Nations Unies. Il y a un paragraphe qui est relatif aux armes, où il est question de pauvreté. Le gaspillage des armes se poursuit. Il faut investir dans les gens et épargner, économiser des millions consacrés aux armes. Nous n'avons pas d'armes chimiques et nous ne vendons pas d'armes classiques. Et il serait bon de voir quels sont les fournisseurs d'armes au groupe rebelle en Syrie, car il est logique que le gouvernement dispose des armes de l'État. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les armes utilisées contre le gouvernement syrien. Il ne s'agit pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, il s'agit de poser des questions logiques qui représentent toutefois un commerce réel. Et il est question d'enfants. On parle des morts causées par les armes chimiques, alors que 150 000 personnes ont déjà perdu la vie. Pourquoi n'en a-t-on pas parlé il y a 2 ans? Car des armes ont été utilisées, mais en fait, nous ne les produisons pas et nous ne les utilisons pas, mais nous pouvons nous imaginer ce que cela représente. Je voudrais lire un autre extrait très important où le secrétaire général des Nations Unies nous parle de la situation économique. L'Assemblée a été marquée par le dossier syrien, mais il est clair que la crise économique qui a commencé en 2008 aux États-Unis avec la faillite de Lehman Brothers. Et c'est là la cause d'une situation volatile, risquée. Nous voyons de millions de chômeurs dans le monde. Et c'est une situation similaire à celle de l'Argentine lors de la défaillance de sa dette en 2001. Et ces règles non écrites sur la qualification des risques, les produits dérivés, tout cela est vendu pour faire des bénéfices très importants. C'est également l'histoire de l'Argentine, mais de n'importe quel pays cela pourrait l'être. À partir du gouvernement du président Kirchner en 2003, en mars, a commencé à voir comment sortir de cette dette qui représentait le 50% de la dette, 50% de pauvreté, de personnes sans travail, etc. Il faudrait y réfléchir. En 2005, il y a eu la première restructuration de la dette. auprès de 75% des créanciers. En 2010, on a voulu parler à nouveau de la dette avec 93% des créanciers. Il faut tenir compte du fait que dans un pays en faillite comme une entreprise, un pays comme l'Argentine, a voulu attirer des créanciers pour en attirer d'autres. Et nous avons commencé avec 67%. Et cette faillite peut se produire dans d'autres pays, y compris les États-Unis avec les municipalités. En 2010, l'Argentine est arrivée à un accord avec 93% de ses créanciers. Et depuis 2005 jusqu'à ce jour, l'Argentine a payé à temps et rigoureusement chacune des tranches dues. Et l'ultime paiement a été effectué il y a quelques jours avec des bons. 160% et en ce qui concerne cette dette, une grande partie est due par le secteur public. Encore une fois, nous avons payé fidèlement notre dette en 2008, 7 ans après la défaillance par l'Argentine. Les fonds de spéculation des vautours c'est un peu comme les vautours et les films de Hitchcock. Des fonds ont été achetés par ces fonds spéculatifs qui veulent encaisser au mépris des accords avec les créanciers qui ont accepté des pertes comme tout autre groupe de créanciers qui ont accepté certaines conditions de paiement et qui veulent néanmoins obtenir la valeur nominale des bons sans prolongation de délai. Alors qu'il n'était possible que de payer 40 millions, on veut encaisser 107 millions de dollars. Donc, depuis 2008, cela fait un rendement de plus de 1000%. Et j'aimerais demander que l'on investisse, qu'on crée des emplois, qu'on parle de productivité et non pas que l'on ait des casinos et que l'on ait un jugement en faveur du recouvrement d'un bénéfice à des milliers de pourcentages. Et ce n'est pas un problème uniquement de l'Argentine, mais du monde entier. La Cour de justice des États-Unis a été l'ami de la Cour et l'ancien directeur du Fonds monétaire. Le Fonds monétaire n'est pas un ami de l'Argentine, mais nous aimerions demander que le Trésor américain, Paul O'Neill, lorsque il a voulu forcer la main de l'Argentine en 2001, alors qu'il y avait une crise sociale institutionnelle avec 30 morts. Il a dit que le fonds ne voulait pas payer la fête argentine. Les millions d'Argentins qui ont à nouveau un emploi, les millions qui avaient des espoirs, les savants qui sont rentrés dans leur pays, les enfants qui ont pu aller à l'école n'ont pas non plus envie de payer les pots cassés à la suite des campagnes des campagnes politiques. Et il est important que l'on comprenne de régler la situation financière. Et des années se sont passées depuis l'époque de Paul O'Neill, de ce qui s'est passé, et on n'a rien payé, mais on a exigé que nous payions. Et aujourd'hui, on se trouve devant une situation absurde. Un monde qui s'occupe de la restructuration de dettes, y compris aux États-Unis. On ne peut voir des hommes, des femmes sans travail. L'Argentine a la chance d'être un pays qui a une monnaie de réserve, mais qui n'a pas de monnaie de réserve, mais nous connaissons notre devoir. Il y a une doctrine que l'on veut sanctionner, châtier l'Argentine parce qu'elle est sortie du fond du puits. Elle a pu créer des emplois, etc., sans recettes d'aide du Fonds monétaire international. Il est nécessaire d'élaborer une loi mondiale, une réglementation mondiale du marché. On a entendu de très belles déclarations au groupe des 20 en ce qui concerne la qualification des risques et les augmentations de capital, mais il est certain que le monde a besoin d'une loi mondiale pour assurer la gouvernance mondiale, tout comme on doit pouvoir respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée des Nations Unies. Nous avons besoin de normes et nous devons exiger le respect de la souveraineté des pays et essentiellement. Je voudrais m'adresser à vous tous en ce jour très particulier où se mélangent la guerre, l'affirmation des droits de l'homme, où il y a des violations des droits de l'homme, mais pas seulement des droits de l'homme. Il y a des choses, il faut qu'on se consacre à des choses plus utiles. La perte de l'espoir, la perte d'un emploi. Et en définitive, en dernière analyse, notre responsabilité de dirigeant est de créer une histoire différente, sérieusement. Il y a eu certains discours ambivalents, pleins d'espoir d'une part, mais de désillusion d'autre part, parce que l'on n'a pas pu faire ce que l'on aurait voulu. Comme un caprice, on aurait voulu le faire, mais on n'a pas pu le faire. Quand on a la responsabilité d'un pays, on ne peut pas faire cela. Et on ne peut pas alors se tromper, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays puissant. Nous ne voulons pas nous tromper, car les erreurs commises ne sont pas réglées par ceux qui ont pris de mauvaises décisions. Les erreurs se payent en vie humaine, s'il y a la guerre, mais également en vie humaine s'il s'agit d'erreurs économiques, de chômage, de manque de santé, de logement, d'insécurité. Une main-d'œuvre à bas prix dans le cadre des stupéfiants. Et pour lutter contre les stupéfiants, nous voulons mettre fin à la main-d'œuvre mal payée. Et nous voulons mettre fin à cela également en Amérique centrale. Et l'argent n'est pas lavé dans les pays producteurs de la matière première. C'est dans d'autres pays que cela se fait. On peut parler des stupéfiants et beaucoup d'autres choses, mais je voudrais conclure sur une phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies. Et il m'a semblé approprié qu'il nous lance cet appel. Notamment de faire de l'espoir une action d'engagement, de légitimité. Et pour conclure, il a dit, il a parlé de compassion. J'ai beaucoup de passion. Parfois, on me dit que j'exagère, que mon langage est assez fort ou trop fort. Mais il a parlé de passion, mais surtout de compassion. C'est ainsi que l'on peut édifier un avenir tel que souhaité par les gens et dont notre monde a besoin, avec passion et la compassion. Ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Je vous avoue que je l'ai entendu prononcer souvent dans mon pays au cours des années. Et j'ai compris ce qu'est la passion. Et cette parole a été prononcée également par un cardinal argentin qui aujourd'hui est pape. Et je le remercie en tant que chrétienne, je le remercie de son intervention fondamentale au sujet de la Syrie. Il a parlé avec passion de l'espoir, de l'avenir, du futur. Et il a parlé de compassion pour les moins lotis, les plus vulnérables, qui espèrent et attendent, et pour qui on ne fait rien pour remédier à la misère. On attend la main de Dieu. Il faut parler avec passion de ceux qui sont victimes de la guerre, du chômage, de la maladie, de la pauvreté. Il faut parler, en définitive, de notre propre échec. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.
On behalf of the General Assembly,
au nom de l'Assemblée générale, je remercie la présidente de la République argentine de son allocution. Puis-je demander aux représentants de rester assis?